Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Quelle perception avez-vous de la gouvernance dans votre pays? Vos témoignages nous intéressent et on en parle ce matin à l'occasion de la publication du rapport de la Fondation Mo Ibrahim. Chaque année, à cette époque, 54 pays du continent africain sont passés au crible et grâce à une centaine d'indicateurs allant de l'indépendance de la justice à la transparence des élections, en passant par la liberté d'expression, la qualité de l'enseignement, l'accès à la santé ou encore le respect des droits humains, eh bien la Fondation est établi un indice, un classement de la gouvernance en Afrique et d'une année sur l'autre, eh bien, on retrouve toujours les mêmes champions. L'île Maurice en tête, suivie des Seychelles, du Cap-Vert, de la Namibie. À noter tout de même qu'au cours des 10 dernières années, c'est la Côte d'Ivoire qui a fait la plus forte progression, passant de la 41e à la 22e place. Et en bas du classement figurent la Somalie, le Soudan du Sud, l'Érythrée, la Centrafrique ou encore la Libye. En tout cas, ce qui ressort de ce dernier rapport, c'est qu'aujourd'hui, sur le continent africain, environ 3 citoyens sur 4 vivent dans un pays où la gouvernance s'est améliorée au cours de la dernière décennie. Alors êtes-vous d'accord, vous qui êtes sur place, avec cette analyse? Constatez-vous effectivement des améliorations? Dans quel domaine? Quels sont justement les domaines les plus performants? 33 9 693 693 70. Vous continuez, j'ai envie de vous lire, continuez à nous poster vos commentaires sur la page Facebook de l'émission. Il y a par exemple Mahamadou qui est au Niger et qui nous dit: malgré un gouvernement pléthorique, le système éducatif est délaissé, le secteur de la santé est en panne, sans parler de la corruption qui gangrène tous les domaines. Le gouvernement, nous dit cet auditeur, doit revoir sa feuille de route. Bonjour Alpha.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Dakar, vous nous appelez donc du Sénégal. Vous disiez au Standard que la situation n'était pas parfaite au Sénégal, mais il y avait eu tout de même des avancées ces 10 dernières années.
Absolument, oui, je le confirme. Il y a des avancées, notamment dans le domaine de la santé, où on constate quand même une augmentation de l'espérance de la vie grâce à une meilleure couverture en soins de santé des populations, couverture en infrastructures, couverture en personnel de santé. Mais il y a des choses à améliorer, par exemple, améliorer la prévention, le traitement des maladies chroniques, se doter d'ambulances médicalisées, accentuer la prévention.
Vous avez raison d'insister, en tout cas si ça vous frappe, si vous avez l'impression vraiment que dans le domaine de la santé, il y a eu de réelles avancées, c'est un constat général, qu'on le veuille ou non, en tout cas c'est ce qui ressort du classement de la Fondation Mo Ibrahim. Dans le domaine de la santé, tous les pays sur le continent africain ont concrétiser des efforts. C'est probablement le seul domaine où il y a eu véritablement de vrais progrès à l'échelle continentale ces 10 dernières années.
Oui, mais il y a aussi la sécurité. Hein. Moi, je remarque dans mon pays qu'il y a quand même des efforts énormes qui ont été faits. Hein. Et je vois qu'on construit beaucoup plus de commissariats, de brigades de gendarmerie, qui sont équipées en plus. L'État va recruter 2000 agents en corps de sécurité. Mais il y a aussi des améliorations à faire, notamment dans la banlieue où le problème de sécurité est réel et où il faut, je pense, associer quand même les populations.
Et donc, un point positif pour vous, la santé, un point négatif ou disons, on peut mieux faire, la sécurité, s'il fallait résumer.
Oui.
Très bien. Ce sont deux points intéressants. Vous souhaitiez rajouter quelque chose rapidement, Alpha?
Oui, je pense que dans le domaine de l'éducation aussi, il y a des avancées. Hein. Par rapport à mon époque, moi je suis à la retraite, mais par rapport à mon époque, je vois qu'on a multiplié les universités, les lycées, les collèges, etc. Oui. Et qu'il faut juste peut-être revoir le système, améliorer le système de l'éducation en l'accent davantage sur...
Il y a peut-être plus d'écoles et plus d'universités, mais rappelez-vous, il y a quelques mois, et on a eu l'occasion d'en débattre avec les auditeurs, notamment sénégalais, la colère des étudiants sénégalais dans les universités, un peu peu partout à travers le pays. C'était il y a 3-4 mois maintenant. Merci beaucoup, Alpha, d'avoir lancé le débat. Bonne journée à vous. Sabi nous écrit du Bénin. Il nous dit que le régime de la rupture fait des efforts pour améliorer la qualité de l'enseignement. Mais pour ce qui est de l'indépendance de la justice, nous avons l'impression qu'elle est utilisée par le pouvoir sous couvert de lutter contre la corruption pour exiler les opposants sérieux en vue des prochaines élections. Nous sommes pour la lutte contre la corruption, mais avec une justice libre, nous dit Sabi. Donc un point positif lui aussi et un point négatif. Bonjour Charlotte.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je le disais tout à l'heure en introduction, la Côte d'Ivoire est le pays qui a fait la plus forte progression ces 10 dernières années, passant de la 41e à la 22e place. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord, vous, avec ce constat dressé par la Fondation Mo Ibrahim?
Comme je le dis, ce constat en fait vient remercier les efforts du gouvernement pour redorer l'image de la Côte d'Ivoire qui, quand même après la crise qu'on a connue, a réussi à rendre notre pays fréquentable. Les investisseurs sont de retour, les infrastructures sont construites, des efforts sont faits. Mais la vérité implacable, c'est que le quotidien des Ivoiriens n'est pas forcément impacté par cela. Et c'est ce qu'il faut changer. La gouvernance doit vraiment marquer une rupture avec les régimes précédents et changer d'orientation pour que le clanisme disparaisse et que les efforts qui sont faits pour que notre pays puisse à nouveau inaugurer des usines, créer des emplois, puisse vraiment bénéficier à la masse. Parce qu'aujourd'hui, l'Ivoirien moyen a du mal à en vivre.
Oui. Et c'est-à-dire que quand vous dites il faut que l'Ivoirien moyen puisse profiter de cette croissance, de cette richesse créée grâce aux investissements notamment étrangers, mais que la grande majorité puisse bénéficier des fruits de la croissance. C'est cet aspect-là que vous regrettez. Que votre bilan est un peu négatif.
Je regrette. Oui, c'est cet aspect que je regrette parce qu'aujourd'hui, tout est là pour que l'Ivoirien puisse se sentir bien. Mais on constate que malgré tous les efforts déployés par le gouvernement, les efforts notables et remarquables, comme je l'ai dit, il y a des usines qui sont inaugurées, les investisseurs viennent, la Côte d'Ivoire abrite des colloques internationaux. Sur le plan international, c'est parfait, l'image elle est nickel, les efforts sont réels. Mais en interne, les Ivoiriens ne bénéficient pas de cela parce que c'est un groupe qui en profite. Tout se passe là-haut et l'Ivoirien moyen ne s'en sort pas. Les quotidiens sont difficiles. C'est cela qu'il faut changer. Et même sur le plan sécuritaire, il y a des efforts qui sont consentis, mais il y a encore des améliorations à faire.
Ouais, vous savez que vous dites qu'il faut que tout le monde en profite. C'est vraiment le gros point noir du rapport 2018 de la Fondation Mo Ibrahim. C'est vraiment le développement économique durable. On voit qu'en 10 ans, le PIB a augmenté de 40% à l'échelle continentale, mais la population ne tire pas profit justement de cette croissance. Il y a 39 pays par exemple qui ne parviennent pas à offrir des opportunités économiques à leurs citoyens, c'est-à-dire que dans 39 pays sur les 54 recensés, analysés, scrutés par la Fondation, eh bien il est compliqué par exemple de monter une affaire, de demander un prêt bancaire, tout simplement de créer soi-même un travail par exemple, d'être auto-entrepreneur. Et c'est un peu ce que vous regrettez, vous Charlotte, au regard de ce que vous pouvez vivre au quotidiennement à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je vous interromps, le temps passe très vite, il y a beaucoup de témoignages au standard et sur la page Facebook de l'émission. Allez, Facebook, en Guinée, Mamadou nous dit « Aucune avancée dans mon pays, la Guinée, pas de justice, répression totale à chaque manifestation. » Et quand il parle de l'éducation, il nous dit « Depuis un mois, on nous annonce l'ouverture des classes, mais jusqu'à présent, il n'y a toujours pas cours. » Alors effectivement, ce n'est pas parce qu'il y a à un certain moment, 2-3 mois de grève au niveau de l'enseignement, que le bilan de ces 10 dernières années est forcément négatif. Dieu béni, bonjour.
Bonjour Monsieur Wan.
Vous êtes à Bangui en Centrafrique. J'ai sous les yeux le classement de la Fondation Mo Ibrahim. La Centrafrique est 50e sur 54 pays. C'est une surprise ou pas pour vous?
Pas une surprise du tout, pas du tout, parce que la RCA, comme vous le savez, c'est un pays enclavé. Il n'y a pas eu d'ouverture à d'autres pays, donc non seulement la situation sécuritaire l'empêche d'avoir un développement durable dans ce cas. Donc le classement n'étonne pas du tout.
Et donc c'est tout ce que vous souhaitez dire?
Ah oui, mais des efforts ont été déployés, il faut le reconnaître, sur le plan social, agriculture, et beaucoup de choses ont été faites pour le développement. Donc, je tire le chapeau au gouvernement, même si la situation sécuritaire n'est pas encore tenable, mais il faut...
Et quand vous dites que beaucoup de choses ont été faites, soyez un peu plus précis, un peu plus concret, parlez-nous d'un secteur performant, en tout cas, selon vous.
Alors, par exemple, au niveau du secteur économique, il y a eu un taux de croissance. Le FMI avait même encouragé le gouvernement centrafricain pour ses efforts déployés. Sur le plan d'agriculture, la FAO qui appuie aussi les agriculteurs, mais il n'y a pas encore une entente entre les éleveurs et les agriculteurs parce qu'il y a des tirements entre ces deux facteurs. Mais je crois qu'au fil du temps, tout ça va passer pour que la RCA puisse remonter ainsi au bas de l'échelle.
Oui, à condition de restaurer la sécurité, évidemment. On en parlait hier avec Charlotte Cosset qui nous rappelait que 70 à 80% du territoire centrafricain était aujourd'hui contrôlé par des groupes armés. Merci beaucoup de cette réaction. Bonne journée à Bangui. Soumani, vous êtes à Paris, bonjour.
Oui, bonjour Rouen, bonjour à toute l'équipe de RFI.
Merci de nous appeler. Alors, vous êtes mauritanien et vous avez appelé le Standard pour nous dire votre déception en constatant que votre pays, la Mauritanie, est à la 40e place.
Ben franchement, oui, je pensais vraiment qu'on était au-dessus de ça, parce que j'ai remarqué des changements visibles et réels en Mauritanie. Que j'y vais presque chaque année.
Oui.
Et puis j'ai ressenti, en tout cas j'avais l'impression jusqu'à ce classement-là, que ça avait vraiment changé par rapport justement aux droits de l'homme, aux droits de la femme. La femme est un peu plus libérée qu'auparavant. Et puis même par rapport au commerce qui s'ouvre de plus en plus en Mauritanie, je pensais que ça avait vraiment évolué. Mais 40e, je suis déçu du classement.
Ouais, déçu. Alors, on voit par exemple une petite baisse de la Mauritanie concernant les droits humains. Par exemple, vous disiez, voilà, les droits de l'homme, j'ai l'impression que ça va mieux. Eh bien, selon la fondation Mo Ibrahim, par rapport à l'année 2017, la Mauritanie perd quasiment un point. Alors, ce n'est pas énorme, mais voilà un secteur dans lequel la Mauritanie est en perte de vitesse, on va dire.
Ben, on perd de vitesse, surtout que sur ce côté-là, c'était à nous de montrer un réel changement, parce qu'on est le dernier pays, je crois, où l'esclavagisme est aboli. Et ben, je suis vraiment déçu. Mais par contre, on peut quand même témoigner par rapport à l'esclavagisme. Il y a eu des condamnations, et puis c'est une première en Mauritanie. Des vraies condamnations, des gens poursuivis, et puis des peines de prison et des grosses amendes.
Donc il y a des signes encourageants, selon vous. Ce serait intéressant, d'ailleurs, d'avoir un jour quelqu'un de la Fondation Mo Ibrahim pour nous expliquer concrètement comment on établit ce classement annuel des pays. Je le disais tout à l'heure, ils prennent en compte une centaine de critères, d'indicateurs. Alors, je ne vais pas tous vous les citer, mais c'est vrai qu'ils sont très nombreux. Et à partir de cela, évidemment, ils établissent un classement. Merci Soumani d'avoir appelé. Bonne journée à Paris. David, bonjour.
Bonjour.
Congolais vivant en Namibie.
Oui.
Alors vous souhaitez plutôt nous parler de votre pays, le Congo, la RDC ou plutôt de la Namibie?
Bah, j'aimerais bien parler des deux, mais je veux plus me focaliser sur la Namibie.
Oui, allez-y.
Qui reflète le classement de Mo Ibrahim.
Quatrième.
Je pense que...
Quatrième au classement, oui.
Ouais, je pense que à entendre tout ce qui vient de se dire pour les autres pays africains, je pense que les Namibiens, je me sens heureux de vivre dans un pays qui est classé, qui reflète exactement le classement. Contrairement à la RDC, qui est l'opposé de la Namibie en tout et pour tout.
Ouais. S'il fallait, David, pour être concret, si vous deviez nous parler d'un seul secteur en Namibie qui va bien, qui fonctionne bien, qui est performant, ce serait lequel?
Je dirais la sécurité.
Oui.
Je dirais la sécurité et la liberté de la presse. C'est qui a permis au président Hifikepunye Pohamba d'obtenir le prix 2014, Et vous allez vite comprendre qu'après lui, il aurait fallu 2 ans pour que la libérienne puisse se rappeler. Contrairement à la République démocratique du Congo, il n'y a rien qui se passe sur le plan sécuritaire. Mmh. Et là, je vous parle, on est à un mois des élections, donc rien ne se passe, des arrestations arbitraires. Et la population toujours en train de vivre dans le qui-vive, comme on dit, à Lubumbashi, c'est le banditisme qui n'existe pas. Finalement, on est à l'opposé, quoi.
Ouais, à l'opposé. Hein. Namibie, 4e au classement de la Fondation Mo Ibrahim, la République démocratique du Congo, 47e. Voilà. Merci beaucoup de ce témoignage, David. Bonne journée à vous. Merci de nous écouter sur Internet dans la capitale namibienne. Amadoum, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Bamako et vous êtes assez pessimiste. Hein. Vous disiez au Standard que, au regard de votre quotidien, vous avez vraiment l'impression que la situation au Mali se dégrade d'année en année.
Effectivement, depuis ces 5 dernières années, avec l'avènement du président Ibeka, on peut constater une certaine dégradation de la gouvernance au niveau du Mali.
Alors, Amadoum, si je peux me permettre, vous avez le droit de ne pas être content du président Ibeka et de dresser tout de suite et de pointer directement du doigt le président. Président qui, je le rappelle, a été réélu pas plus tard qu'il y a 2 mois. Donc, ça veut dire quand même qu'une majorité des Maliens sont satisfaits de son action.
Juan, je ne le pointe pas directement. Je dis, c'est juste avec son arrivée, c'est clair qu'il y a des choses qui ont commencé bien avant, notamment la situation sécuritaire. Mais depuis son avènement, nous voyons une certaine dégradation, surtout avec des scandales qu'on ne connaissait pas avant, des scandales politiques, financiers et juridiques qui concernent même le président de la République. Donc on est un peu en droit de se poser des questions.
Mmh. Donc, mauvaise gouvernance, mauvaise gestion, à vous entendre, des fonds publics. S'il fallait désigner un secteur où vous avez constaté des progrès, est-ce que ce serait la santé, par exemple? Parce que la santé, je le disais, c'est le domaine qui a vraiment progressé dans tous les pays sur le continent africain.
Oui, si on pense aux 10 dernières années, au Mali, le secteur de la santé est le secteur qui a vraiment le plus évolué. Avec l'instauration de l'assurance maladie obligatoire, cependant, il reste encore des insuffisances parce qu'il serait mieux d'étendre le champ d'application de cette assurance maladie obligatoire pour que tout le monde puisse en bénéficier, au moins la majorité puisse en bénéficier. Pour le moment, c'est restreint à certaines couches de la population. Il serait bien de travailler dans ce sens-là pour l'étendre au maximum de couches possibles, en fait.
Merci beaucoup, Amadoum. Bonne journée à Bamako, le Mali, qui a perdu 4 places par rapport au classement de l'année dernière. 33 9 693 693 70. Il nous reste à peine 2 minutes. Bonjour Abdel.
Oui, bonjour Anna.
Alors, vous nous appelez de Conakry. Alors, vous êtes assez radical, hein. Vous n'avez constaté, vous, aucune amélioration en 10 ans.
Aucune amélioration du cadre de vie des Guinéens depuis l'arrivée du président Condé à la tête de ce pays. Parce que moi, je vis en Guinée depuis 4 ans, je suis rentré de la France il y a 4 ans de cela. Donc aujourd'hui, le droit des citoyens sont bafoués systématiquement. On interdit les manifestations politiques, on interdit les manifestations sociales, des syndicalistes, de la société civile, des forces vives. D'ailleurs, encore aujourd'hui, la crise qui mine aujourd'hui la capitale Conakry, en général la Guinée jusqu'à l'intérieur du pays, c'est l'éducation. L'éducation est totalement bafouée aujourd'hui. Les syndicalistes sont en grève, les enfants ne vont pas à l'école, le pouvoir en place est radical. Donc je pense aujourd'hui, concernant aussi la santé, il n'y a aucune amélioration dans ce sens, parce que j'ai visité tous les hôpitaux, tous les hôpitaux, ils sont pas équipés, l'État ne met pas beaucoup d'argent dans ce sens pour construire des hôpitaux, des centres de santé.
Ouais. Enfin, et en même temps, alors, vous avez un regard très critique. J'ai sous les yeux, je le consulte à chaque fois avec les auditeurs, le classement en matière de droits humains, par exemple. La Guinée, puisque vous parliez de répression, etc., a progressé plus 13 points par rapport à l'année dernière. Donc voilà, il y a un décalage, un fossé entre votre constat à vous